l'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des territoires du monde et de la solidarité internationale.
Bonjour, chers amis, chères auditrices, chers auditeurs. C'est aujourd'hui Michel Collomb qui vous parle et j'ai invité Pierre Glamot, qui est le secrétaire général de la CFDT des retraités de l'Hérault. Alors, bonjour Pierre.
Bonjour Michel.
Je suis heureux de t'entendre.
Moi aussi.
Et nous allons un peu parler de ce manque de cohérence qui semble y avoir entre les mots d'ordre du Rassemblement national et ce qu'ils revendiquent effectivement, en particulier dans leur vote. Voilà, je ne sais pas comment tu vois ça, est-ce que...
Mais je dirais peut-être en amont que la CFDT est indépendante, sans aucun rattachement à un parti politique, et que l'une des orientations qui a été précisée lors de notre dernier congrès national à Lyon en 2022, est sur ce sujet de combattre les partis qui prônent la haine, le sexisme ou le racisme.
Exactement.
Et c'est par rapport à ça que nous sommes engagés contre le Rassemblement national.
Effectivement, effectivement. Et alors, comment tu vois ce problème de cohérence ?
Mais c'est vrai que quand on regarde un peu ce qui se passe, c'est vrai que tous les derniers éléments montrent que le corps électoral des personnes âgées et des retraités vote de plus en plus pour le Rassemblement national. Et tout en discutant à l'intérieur de nos structures du sujet, on s'est rendu compte qu'il y a souvent un très grand décalage et même parfois une contradiction complète entre les positionnements officiels et les votes du Rassemblement national, que ce soit en France ou en Europe, puisqu'on voit ça et à
oui,
l'Assemblée
c'est également
nationale
vrai
et
devant
également
le Parlement européen,
à la Commission européenne. Oui.
Oui.
Alors, parmi les thèmes qui nous ont frappé le plus, c'est tout ce qui concerne en particulier le sexisme et la cause des femmes. En effet, quand on entend le RN, il y a de grandes envolées lyriques sur le fait de prendre la défense des femmes. Malheureusement, on peut voir que dans les votes, ce parti constitue un obstacle à l'émancipation des femmes et un risque véritable pour leur totale indépendance, en menaçant l'accès à la contraception, le droit à l'avortement, le financement du planning familial. En particulier, si on regarde au Parlement européen, en 2018, le RN a voté contre une résolution concernant les harcèlements moraux et sexuels, qui ne touche pas que les femmes, mais qui touche beaucoup les femmes. Ensuite, en janvier 2020, toujours au Parlement européen, une résolution destiné à résorber les écarts de salaire entre les hommes et les femmes, le RN a voté contre. Et là, ça nous marque surtout parce qu'on se rend compte que les femmes en activité professionnelle sont handicapées par ça, mais c'est encore pire en ce qui concerne les retraités, puisque souvent, ça leur fait une carrière très morcelée, ce qui fait que sur les retraites, l'écart est encore plus important que ce qui peut être sur les salaires.
À combien on peut estimer à peu près l'écart entre les salaires des hommes et les salaires des femmes en France ?
Je pense que c'est autour de 20%.
Autour de 20%, oui.
Je pense. Ouais. Ensuite, toujours pareil, sur le même sujet, la même année, en novembre 2020, le RN a voté contre un texte qui condamnait une réglementation polonaise interdisant le droit à l'avortement.
Ouais.
Ça a continué aussi en 2021, où, ça rejoint un peu ce que je disais avant, en 2021, il y a eu un vote contre une résolution européenne en faveur de l'égalité hommes-femmes.
Mmh.
Et au niveau national, on retrouve les mêmes problèmes, en particulier il y a eu une opposition sur la prise en charge intégrale des soins pour le cancer du sein, sur l'allongement de la durée d'accès à l'IVG, et même lors du congrès de Versailles, lors de l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution française, 11 élus RN ont voté contre, 20 d'entre eux s'abstenaient. Donc là, il y a eu un partage, puisqu'effectivement, comme tous les groupes, il y a une liberté qui leur est accordée. Mais on voit quand même que 20 s'abstiennent et 11 votent contre, ce qui est quand même important.
Et ces votes, ils représentent quoi, finalement? Est-ce que ça représente une sorte de morale institutionnalisée, héritée ou, comment on peut commenter ça?
C'est vraiment compliqué parce que comme il y a quand même des discours qui disent le contraire,
oui.
Je crois qu'il faut que nos concitoyens comprennent bien que c'est pas normal qu'il y ait un décalage tel entre oui. les actions, les votes
oui.
et le discours.
Oui.
Or, le problème qu'il y a, c'est que les gens s'appuient sur le discours pour voter.
D'accord.
Et c'est vrai que le développement des réseaux sociaux ne nous aide pas beaucoup là-dessus, effectivement.
Oui.
Donc, honnêtement, il faut vraiment pouvoir, ce qu'on a fait entre nous, c'est-à-dire il faut pouvoir vraiment échanger sur les sujets pour arriver à ce que les gens se rendent compte du décalage réel qu'il y a.
Mmh. Mmh. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut conclure que le RN instrumentalise la cause des femmes et dévoile son antiféminisme? Est-ce qu'on peut aller dans ce sens-là?
Je crois que oui, malheureusement, pour les femmes.
Oui. En particulier pour les femmes, oui. Ouais, ouais. Alors, c'est vrai que si on avait maintenu... le vote, le vote, je ne retrouve pas l'explication. Si on gelait les pensions, par exemple, oui, pour les retraités, si on avait décidé de geler les pensions, ça aurait peut-être encore rajouté des votants au Front National, probablement.
Peut-être, à part que là aussi, c'est compliqué, leur positionnement et leur vote. Par exemple, sur ce qui concerne le SMIC,
oui.
ou l'indexation des salaires sur l'inflation, ou le gel des loyers, ou le rétablissement de l'impôt sur la fortune, le RN a voté contre certains, ou alors s'est abstenu, par exemple, sur la garantie autonomie des étudiants. Et je crois qu'à ce moment, ça fait partie des débats qu'il y a à l'Assemblée. Et là, je dois avouer que je ne sais pas exactement où ça en est.
Mmh.
Mais c'est vrai que dans le passé, ça a été très compliqué. Et là, c'est en France, puisqu'on parle du SMIC, etc. Mais au Parlement européen, ça a été exactement pareil, puisqu'en octobre 2023, le RN a voté contre une directive sur la hausse des salaires minimums.
Mmh.
Parce qu'il ne faut pas oublier que les salaires minimums sont très différents d'un pays à l'autre.
Mmh. Et bien sûr.
On est parmi les pays où il est le plus élevé, et on voit très bien qu'en fait, c'est compliqué même de vivre avec le salaire minimum.
Mmh. Absolument, absolument. D'accord. Donc, on est confronté à une ligne, mais qui, finalement, s'accompagne d'un double discours qui pourrait être montré comme étant un opportunisme.
Oui.
Un opportunisme électoral.
Oui,
voilà.
Tout à fait.
Donc, voilà. Alors, on va peut-être... passer un morceau de musique. Alors, tu vas nous dire quel est le morceau que tu as choisi.
Oui, donc j'ai choisi la musique du générique du film de René Alliot qui s'appelle La vieille dame indigne, qui est une chanson de Jean Ferrat, On ne voit pas le temps passer.
D'accord.
Là, je crois que c'est le retraité qui,
D'accord.
Qui revient sur, sur son passé.
D'accord, d'accord.
C'est un film de 1975, je pense.
Ah oui, oui.
On se marie tôt à 20 ans et l'on n'attend pas des années pour faire 3 ou 4 enfants qui vous occupent vos journées. Entre les courses, la vaisselle, entre ménage et déjeuner, le monde peut battre de l'aile, on n'a pas le temps d'y penser. Faut-il pleurer? Faut-il en rire? Fait-elle envie ou bien pitié? Je n'ai pas le cœur à le dire. On ne voit pas le temps passer. Une odeur de café qui fume, et voilà tout son univers. Les enfants jouent, le mari fume, les jours s'écoulent à l'envers. À peine voit-on ses enfants naître, qu'il faut déjà les embrasser. Et l'on n'étend plus aux fenêtres qu'une jeunesse à repasser. Faut-il pleurer? Faut-il en rire? Fait-elle envie ou bien pitié? Je n'ai pas le cœur à le dire. On ne voit pas le temps passer. Elle n'a vu dans les dimanches qu'un costume frais repassé. Quelques fleurs ou bien quelques branches décorant la salle à manger. Quand toute une vie se résume en millions de pas dérisoires, prise comme marteau et enclume entre une table et une armoire. Faut-il pleurer? Faut-il en rire? Fait-elle envie ou bien pitié? Je n'ai pas le cœur à le dire. On ne voit pas le temps passer.
Voilà, donc on a un peu déjà abordé la question de la conception du rôle des femmes d'après le RN. Mais peut-être qu'on pourrait conclure sur ce point en précisant que le RN est finalement contre l'égalité entre les hommes et les femmes et s'oppose à l'augmentation du SMIG ainsi qu'à l'indexation des salaires sur l'inflation. Alors, cette question là du vote sur sur l'indexation était un des points qui était discuté, et c'est également contre le rétablissement de l'impôt sur la fortune que se positionne le RN. On peut d'ailleurs se demander comment le RN a pu voter l'impôt sur la fortune improductive. C'est la dernière formule qui a été trouvée.
Alors, tu as dit les salaires, mais également les pensions.
Oui, les pensions.
Qui nous concernent directement.
Et oui, absolument.
C'est un sacré problème. Oui, effectivement, c'est assez ambigu. Surtout que l'an dernier, la première fois où était apparue la taxe Zugman, en commission, ils avaient voté pour. Tout en expliquant qu'en fait, ils avaient voté pour que le débat puisse être mené.
Puisse s'ouvrir. Ouais.
Mais après, ils avaient voté contre. Et là, d'après ce que j'ai compris, ce nouveau projet qui est sorti du gouvernement, ils ont voté parce qu'ils disent que ça correspond à ce qu'ils proposaient, eux. Alors, je crois que c'est compliqué, mais je crois que ça rejoint un peu ce qu'on peut voir ensuite, c'est-à-dire que tous ceux qui proposent la comme-gel, etc., ça anticipe un peu sur la suite, et en particulier sur le problème des services publics. Il ne faut pas oublier qu'on est financé, qu'en France, on est vraiment très bien financé, mais qu'un certain nombre de leurs positionnements font qu'en fait, ça va tout, tout gelé, tout compliqué, parce qu'il... je suis en train de chercher mes mots, moi aussi. Parce qu'il... il propose... Enfin, il propose un certain nombre de choses qui sont de faire beaucoup de dépenses sur certains sujets, mais sans penser comment les financer. Je crois que là, c'est un des gros problèmes. Et en plus, ce qu'il y a de compliqué, c'est que, par exemple, si on les écoute, ils disent qu'on a un service public qui est calamiteux, surtout dans le domaine de la santé et dans le domaine de l'éducation. Donc, l'hôpital, etc. Mais en même temps, comme ils veulent être proches, surtout le président actuel du patronat, ils suggèrent que les cotisations sociales soient diminuées.
Oui.
Le problème, c'est que si les cotisations sociales soient diminuées, ça diminue d'autant les recettes de l'impôt.
Et oui.
Donc, ça veut dire que on pourrait, la sécurité sociale aurait du mal à être financée, encore plus que ce qu'elle est à l'heure actuelle.
C'est 25 milliards actuellement.
Oui, oui, c'est ça.
De déficit.
Oui. Mais le déficit, il est ambigu quand même aussi, parce que bon, si on regarde bien, il y a des choses qui ne sont pas cohérentes.
Ouais.
Parce que souvent, il y a une confusion qui est faite entre ce qui est de l'impôt ou pas. Par exemple, si on regarde effectivement les baisses des cotisations sociales, ça réduit l'impôt, mais... C'est remplacé pour l'instant par rien. Donc il faut arriver à trouver quelque chose. Ensuite, une chose qui est importante, on vient de voir une énorme publicité faite sur certains médias pour le second livre j'ai oublié son nom, du président du Rassemblement national. Et ce second livre, il est publié dans une maison d'édition qui appartient au groupe Bolloré. Il est présenté sur toute une série de médias, télévision ou radio, qui appartiennent au groupe Bolloré. Donc là, on voit qu'il y a des choses qui avancent. Et en même temps, ne pas oublier que parmi les propositions du Rassemblement national, il y a la privatisation du service public audiovisuel. Alors, quel est le gros groupe qui est à côté, qui est en face?
C'est Bolloré.
C'est le groupe Bolloré. Voilà.
Bien
donc,
sûr.
Cherchez où est ce qui se passe, quoi.
Ouais.
Ensuite, on voit bien sur les hôpitaux, on voit bien, ils disent qu'il y a trop de postes administratifs. Le problème, c'est que si on diminue les postes administratifs, ça veut dire qu'il faudra que les soignants, les médecins, etc., effectue les tâches qui seront plus effectuées
exactement
par les personnels administratifs.
Ce qui est déjà le cas à l'université, d'ailleurs.
Oui, c'est vrai que c'est un domaine que tu connais bien, effectivement. Mais j'ai parlé d'éducation tout à l'heure, mais c'est valable pour toute l'éducation.
Ouais, ouais, ouais. D'accord.
Que ce soit l'enseignement secondaire ou l'enseignement supérieur.
Oui, oui. Donc, oui, la diminution des personnels des hôpitaux, ça serait vraiment catastrophique. Ça.
Oui, oui, déjà voilà. Qu'à l'heure actuelle. Et penser à autre chose aussi dans ce domaine-là, c'est qu'on sait très bien que les hôpitaux tiennent beaucoup parce qu'il y a des médecins étrangers qui viennent.
Oui.
Et il faut savoir qu'en plus, ces médecins étrangers font de l'intérim. Et s'ils ont un salaire de base qui est très petit, par rapport à l'intérim, ça coûte une fortune. Donc, c'est encore un élément qui est inquiétant. Par rapport à ça aussi, il y a un sujet dont on parle de plus en plus, qui est les déserts médicaux. Et on en a dans l'Hérault. Il n'y en a pas beaucoup, c'est sur les marges du département, sur les secteurs qui sont, ceux qui sont reconnus officiellement comme déserts médicaux, c'est sur les marges extérieures du département, vers le Tarn ou vers le Gard. Mais, en fait, si on réfléchit bien, quand on connaît la situation des quartiers de la politique de la ville, la situation est très compliquée aussi, Et là, il y a eu des textes de loi qui ont été votés et qui demandaient en particulier une régulation de l'installation des médecins, et cela a été refusé. J'ai encore entendu, sur France Info ce matin, un reportage où on montrait que dans certains départements, effectivement, il y avait des mises en place de deux choses. D'une part, ce qu'ils appellent les médecins juniors, c'est-à-dire comment inciter, comment rajouter une dernière année en internat pour que les jeunes puissent aller sur des territoires qui en ont besoin.
Voilà.
À part que, contrairement à ce qui se passe à l'éducation nationale et que j'ai bien connu et qui continue à exister, ce n'est pas imposé. Il faut qu'ils soient OK pour y aller.
Et oui.
Et autre chose aussi...
À part quelques rêveurs, il n'y aura pas grand monde.
Et autre chose aussi, dans ces domaines-là, c'est en train de se faire. Donc, c'est-à-dire qu'ils proposent à des médecins d'aller exercer en dehors de leur territoire, sur des territoires désignés et reconnus comme déficitaires. Mmh. Là aussi, avec une... Enfin, c'est en train de se mettre en place, mais c'est très difficile, parce qu'il faut qu'il y ait un accord qui se fasse, et surtout, je pense qu'il y aura une prime qui sera accordée à ces médecins qui accepteront d'aller sur les territoires un peu désertés. Oui.
Mais actuellement, ils n'ont pas tellement de raison d'accepter ça, parce que...
Je sais qu'il y a déjà deux ou trois cas dans l'Hérault.
Ah oui ?
Oui.
D'accord.
Qui ont été faits.
D'accord.
Je pense dans le... Dans le pays, le Lodève-Larzac, dans cette région-là.
Ah, dans cette région.
Il me semble.
Ah, d'accord. Bon, alors, il y a également des attaques qui sont faites contre les normes environnementales agricoles. Je ne sais pas si tu as remarqué
oui,
ça.
Oui, c'est vrai
ça.
Que c'est...
À vrai dire, ce sont les normes, mais aussi ce sont l'usage de certains produits qui
oui.
permettent finalement de sauver certaines cultures ou de les maintenir.
Non, c'est un des gros sujets qu'il y a dans le domaine agricole.
Oui, c'est ça.
Avec des désaccords très, très importants. Et surtout, alors là c'est quand même un des éléments aussi auquel il me semble que, quand on regarde ce qui se passe, c'est les agriculteurs, bon c'est vrai qu'ils ont des difficultés, etc., mais quand ils se lancent dans l'action, en général ils sont écoutés. Et même si c'est compliqué, puisque ça fait quand même 2 ans qu'il y a des éléments en sujet là-dessus, et que ça a du mal à avancer. Mais c'est vrai que il y a tous ces pesticides qui sont dangereux.
Voilà.
Et où il y a eu des avancées et des reculs par rapport à ce qui s'est passé sur certains produits des pesticides. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que si on regarde bien, ça veut dire que si on s'interdit de mettre en place certaines productions en France en refusant l'utilisation de certains pesticides, il y a certains produits agricoles qu'il faudra bien qu'on importe et qui viendront. Et c'est là qu'ils ont des arguments là-dessus. Mais je crois qu'on ne peut pas rester aussi simple. Il faut effectivement que la chose évolue et qu'on puisse produire plus des produits qui soient réellement
efficaces,
qui ne soient pas dangereux pour la santé, quoi. Parce que c'est ça en fait le gros problème.
D'accord. Et quelles sont les autres questions qu'on peut se poser sur cette ligne qu'établit le Rassemblement national ?
Mais c'est qu'effectivement, bon, il y a ce qu'on a dit depuis le début, donc ce décalage entre leur campagne électorale, leur slogan, et les votes qu'ils ont derrière, et surtout que malheureusement, la majorité des médias les soutient plus ou moins de façon avérée ou pas. Ce que je pense, que parfois, les... il n'y a pas de recherche suffisamment faite sur que sont les fausses infos. Je crois qu'on a un exemple parfait de tous ces points-là, avec ce qui se passe au niveau international, avec les positionnements de quelqu'un comme Donald Trump, par exemple. On est vraiment dans le même ordre d'idées. Mmh. Et ce qui moi, m'inquiète beaucoup aussi, c'est qu'en fait, quand on regarde un peu la façon dont les choses évoluent en Europe, il y a toute une partie de l'Europe qui est dans la même situation que nous, en fait, où soit déjà il y a des partis proches du Rassemblement national qui sont au pouvoir, soit qui peuvent y arriver. Mmh. Donc c'est vraiment...
Oui, c'est une situation...
C'est vraiment une situation un peu très inquiétante et dangereuse un peu. Pour la France, mais pour l'Europe également.
Oui. Est-ce que tu vois encore des questions sur lesquelles on pourrait revenir, en particulier sur peut-être les questions de moralité, finalement, qui servent un peu de point commun de la population, les acceptations influencées par la religion ou par... l'usage, la moralité, etc.
Oui, je comprends ce que tu veux dire. Effectivement, il y a un discours qui essaie de s'imposer, qu'on retrouve un peu partout, qu'on n'a pas trop encore entendu en France, puisqu'il y a quand même un certain nombre de choses qui essaient de bouger un peu.
Oui.
Mais quand on pense, par exemple, à ce qui se passe en Italie à l'heure actuelle, c'est vrai que c'est assez compliqué.
Yeah.
Même si, alors, peut-être la seule chose qui puisse peut-être être un peu rassurante, c'est qu'on se rend compte que sur un certain nombre de sujets, quand même, les discours que tenaient en amont Giorgia Meloni ne sont pas suivis de ce qu'elle fait en réalité derrière, en particulier sur l'immigration, qui quand même est un des gros sujets de débat du Rassemblement national, et sur l'Europe, qui est aussi une critique, même si, on est peut-être passé d'un « on est contre l'Europe » à « on veut l'Europe qui nous convient à nous ». Mais qui est complètement, on a vu les votes, tous les votes qui ont été produits, donc c'est effectivement pas l'Europe telle qu'elle est, effectivement, et telle comme, semble-t-il, on la souhaite.
Mmh. Et oui. Voilà, eh bien, écoute, je crois qu'on a fait à peu près le tour de la question, et je te remercie pour tes
avis. Mais merci de m'avoir invité. Merci de m'avoir invité.
Voilà, et... Merci à toi.